Donc, merci beaucoup. Je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, je dois dire que l'idée de faire cette présentation est née de la lecture d'un ouvrage dirigé par M. Trudel, ici à mes côtés, qui s'appelait « Autochtones et Québécois, la rencontre des nationalismes », qui est paru en 1995 et qui regroupait les actes d'un colloque du même nom. Donc, un colloque tenu quelque peu avant le référendum sur la souveraineté de 1995. Donc, c'est un honneur aujourd'hui de l'avoir à côté pour faire les commentaires après la présentation. Donc, cette communication propose d'analyser les rapports entre les nations autochtones et la nation québécoise en vertu d'objectifs apparemment concurrents, les droits ancestraux et l'autonomie gouvernementale d'un côté et le nationalisme québécois, surtout dans sa version la plus poussée, le souverainisme québécois, de l'autre côté. Donc, parallèlement aux questions de citoyenneté et d'identité, cette apparente opposition soulève d'importants enjeux par rapport au territoire, notamment la propriété du territoire, on en a parlé un peu plus tôt, le droit de légiférer sur celui-ci, le droit d'exploitation des ressources naturelles et la nature de cette exploitation en vertu des conceptions particulières propres aux nations. Donc, dans l'ouvrage dirigé par M. Trudel, on parlait de rencontre des nationalismes. Je pourrais aussi porter à utiliser le terme choc des nationalismes, donc ça dépend de quel côté on se situe. Donc, après avoir présenté les fondements normatifs des projets nationaux, l'évolution et le portrait actuel de la reconnaissance et de la légitimité de ces projets de part et d'autre, je vais exposer ce qui semble être une ouverture, selon moi, permettant de conjuguer les aspirations nationales de part et d'autre, donc des nations présentes sur le territoire québécois. Donc, juste une petite précision, je vais parler ici des rapports entre les nations au Québec, donc ce qui inclut les nations autochtones et la nation québécoise. Malheureusement, je ne pourrais pas parler des rapports avec les minorités, comme les minorités immigrantes ou encore la minorité historique anglophone, bien que ce soit des questions du plus grand intérêt. Mais compte tenu du temps qu'on a. Et les nations sont les seuls groupes qui peuvent mettre de l'avant le droit à l'autodétermination. Donc, c'est pour ça qu'on va insister sur ces groupes en particulier. Donc d'abord, si je peux parler des fondements des nationalismes, l'étude de la rencontre des nationalismes au Québec, à savoir donc nationalisme québécois et celui des 11 nations autochtones, présente certains défis. Donc plusieurs questions surgissent d'abord. On peut s'interroger sur l'émergence de ces nationalismes, sur leur contenu, sur la façon dont ils se sont articulés conjointement. On peut aussi se questionner sur leur finalité. Donc est-ce que ces nationalismes sont tournés vers l'autonomie, vers l'autonomisme, vers l'affirmationnisme ou la souveraineté? Notons que pour certains, ce ne sont pas des finalités, mais plutôt des moyens pour mettre en œuvre le droit à l'autodétermination. Donc, l'approche que je vais utiliser ici est en grande partie celle de Michel Seymour, qui met de l'avant dans son ouvrage « De la tolérance à la reconnaissance ». Donc, M. Seymour, qui n'est pas là ce matin, malheureusement. Oui, c'est ça. Bon. Vous allez me rapporter. Donc, l'approche de Seymour fait en gros... parce qu'elle était présentée sur 600 pages, 700, voilà. L'approche de Seymour fait découler les droits des nations ou des peuples, l'adéquation est effectuée ici, non de l'antériorité de leur présence ou même du droit international, bien que ces éléments soient quand même importants, mais surtout sur leur identité institutionnelle. Donc, pour cette raison, elle est moins vulnérable à certaines critiques récurrentes face au discours autochtone. Notons entre autres que l'antériorité des nations autochtones sur des territoires particuliers est remise en question de par, un, leur caractère nomade, mais aussi par des conquêtes que des nations autochtones ont effectuées au détriment de d'autres nations autochtones et même parfois après l'arrivée des Européens, donc des conquêtes qui sont documentées. Pour Seymour, comme pour Charles Taylor d'ailleurs, ce qui importe, c'est plutôt que leur incorporation au sein du Canada n'est pas le fruit d'un désir commun du vivre ensemble. Et encore aujourd'hui, plusieurs nations autochtones ou plusieurs individus autochtones ont une forte réticence envers un sentiment d'appartenance nationale québécois ou canadien. Donc, le nationalisme autochtone présente un défi particulier. Est-ce qu'on peut parler de nationalisme alors que le nationalisme semble en apparence être le produit d'une certaine modernité? Donc, on a à ce sujet les propos du pape du nationalisme, Benedict Anderson. Le nationalisme est un produit de l'imprimerie et du capitalisme, selon lui, tandis que pour Seymour et pour Kim Lika, il vient du libéralisme. Donc, ces affirmations nous portent à nous interroger sur ce que j'ai appelé le nationalisme autochtone. Donc, étant, selon les auteurs que j'ai présentés, le produit d'une certaine modernité, est-ce que le concept de nationalisme est adéquat dans le cas des nations autochtones, alors que ce nationalisme semble... un, avoir toujours existé, du moins selon le discours autochtone, et deux, remettre fréquemment de l'avant des notions de traditionnalisme. Donc, si les projets, voire l'autodéfinition des nations se sont transformés, comme je le pense personnellement, au contact de la modernité, cette hypothèse se bute au discours autochtone lui-même. tourné vers l'histoire et le passé. À noter que ce regard passéiste est également visible au niveau juridique et constitutionnel dans la notion même de droits ancestraux, qui sont par nature essentialistes. À ce sujet, je vous invite à voir les travaux d'un dénommé Chris Anderson, qui est un métis, qui croit que la notion même de droits ancestraux, en fait, emprisonne les Autochtones dans une vision figée de leur identité. Jean-Jacques Simard va même jusqu'à remettre en question ou en cause les dichotomies entre les valeurs autochtones et non-autochtones, les exemples classiques étant le progrès opposé à la tradition, la compétition face à la coopération ou l'individu face à la communauté. Donc, pour Simard, ce qu'on nomme Occident, c'est tout simplement transformé en modernité. Donc, je cite, « À l'heure actuelle, il n'existe à peu près plus d'endroits et de peuples sur Terre qui ne soient en train de s'approprier la modernité. » Donc, ce serait donc cette modernité qui aurait favorisé l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les nations autochtones. Ce serait une mutation de l'ancien terme « tribu », une notion plutôt sociologique, sans responsabilité politique. Mais en 1975, les Dénés ont été les premiers à s'identifier comme nation, au Canada du moins. À la suite de la victoire du Parti québécois en 1976, le terme « nation » s'est répandu chez les Autochtones, selon du moins M. Tom Flanagan. Donc, il semble qu'un nationalisme autochtone se serait développé depuis quelques décennies, par le biais des communications notamment, comme ce fut le cas jadis dans les nations non autochtones. Donc, en ce sens, la conception de la nation chez les Autochtones aurait pu évoluer et se développer et se rapprocher d'énoncés qu'on voit dans les nations dites non autochtones. Donc, que la structure politique reste à définir ou que ce sentiment de nation soit postérieur au contact avec les Européens a peu d'importance ici. Il s'agit de nations, et c'est pourquoi Michel Seymour leur donne d'emblée le droit à l'autodétermination en tant que nation ou peuple. Mais le rôle de la modernité n'est pas toujours assumé, particulièrement chez les Autochtones. Donc, pour Flanagan, les militants autochtones, ça donne à une manipulation de l'histoire. Donc, ce qu'il appelle orthodoxie autochtone est en fait du révisionnisme historique. De par le fait que les Autochtones mettent de l'avant des concepts de nation, de souveraineté, de gouvernement au sens presque européen du terme qui aurait existé chez les nations autochtones de toute éternité. Donc, l'approche de Seymour présente cet avantage que les peuples autochtones possèdent un droit à l'autodétermination, mais pas en vertu du fait que les nations ont occupé le territoire de toute éternité ou même avant l'arrivée des Européens. Ils possèdent le droit à l'autodétermination parce qu'ils ont été incorporés de force dans le Canada et dans le Québec éventuellement. Donc, au cours de l'histoire, et encore aujourd'hui, c'est clair que les projets nationalistes autochtones et québécois sont entrés en collision, paradoxalement, parce qu'ils sont semblables. Donc, on remarque un désir de reconnaissance de la part de la même entité, le Canada, la mise de l'avant du droit à l'autodétermination, la volonté de rapatriement de pouvoir, et par-dessus tout, des prétentions sur les mêmes territoires. Je pense que c'est le sujet le plus délicat aujourd'hui. Donc, il y a presque aujourd'hui un lieu commun d'affirmer que le nationalisme québécois s'est transformé dans les années 60. Il est passé d'un nationalisme canadien-français axé sur la religion, la langue française aussi, vers un nationalisme plus contemporain, surtout axé sur le territoire et la citoyenneté québécoise. Donc, la prise de conscience du territoire des années 60 a amené la découverte de nouvelles nations qu'on avait en quelque sorte oubliées au nord du Québec, donc dans le cadre des travaux de l'abbé James, principalement. Donc, les nations Cree et Inuit ont rappelé à ce moment que le Québec partageait, que les Québécois, la nation québécoise, partageaient le territoire du Québec avec d'autres nations. Donc, la concurrence des projets s'est vue également dans le long processus de rapatriement de la Constitution plus tard. Donc, Trudeau a répondu à l'élection du PQ en 76 par un long processus de rapatriement de la Constitution et les Autochtones réagirent par peur d'être laissés de côté. Donc, la reconnaissance constitutionnelle de 1982 est le résultat, un résultat toutefois bien en dessous de ce que les Autochtones avaient espéré. Donc, comme le dit Flanagan, ils ne réussirent pas à faire inscrire dans la Constitution leur mot fétiche « nation et souveraineté ». Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, plus tard, on vit une opposition claire entre les projets dans les négociations et la ratification de l'accord du lac Meech. Donc, alors que vous êtes probablement au courant, un député autochtone du Manitoba s'est opposé à l'accord en raison du peu ou même de l'absence de la présence d'Autochtones, donc des Autochtones des droits autochtones dans... Elijah Harper, exactement, c'est ça. Donc, dans l'accord. Donc, une concurrence nette entre les projets. On a vu aussi une concurrence, donc, dans le cadre des... référendum sur la souveraineté du Québec. Donc, en 1980, deux jours avant le référendum québécois, les Inuits ont tenu leur propre référendum pour demander à leur peuple le mandat de négocier leur statut politique avec le Québec, advenant la souveraineté. En 1995, un peu la même chose du côté des Cris, non seulement sans surprise, ont voté non au référendum, mais ont voté oui à leur propre référendum qui demandait en fait de rester dans le Canada, advenant l'accès à la souveraineté du Québec, l'accession du Québec à la souveraineté. Mais petite précision, ces nationalistes ne se sont pas toujours opposés non plus. Il s'agit d'une double dynamique, donc, selon moi, d'opposition, mais aussi de rapprochement, ou du moins d'interaction, où le nationalisme de l'un sert de moteur à l'autre, ou encore lui permet de se questionner face à sa propre nature. À titre d'exemple, j'en ai parlé, la première élection du Parti québécois a servi d'inspiration dans la formulation du nationalisme autochtone. Les Autochtones ont commencé à saisir la portée du concept de nation à ce moment-là, et le rapatriement de la Constitution, qui avait comme objectif donc de faire une place au Québec. Donc, ces interactions, qui peuvent être perçues au départ comme des oppositions, sont également complémentaires, selon moi, voire mutuellement constitutives. Mais comme vous le savez sans doute, les relations entre les Autochtones et le mouvement souverainiste ne sont pas au beau fixe. Pourtant, le comportement des souverainistes n'est pas, envers les Autochtones n'est pas, a priori, plus déplorable lorsqu'ils sont au pouvoir que celui des fédéralistes. Donc, au moment où le Québec allait de l'avant avec le projet de la baie James, on avait affaire aux libéraux de Bourassa. Donc, allait de l'avant avec le projet de la baie James tout en faisant fi des Autochtones. Donc, c'est les tribunaux qui l'ont rappelé à l'ordre. On avait affaire au gouvernement de Bourassa. Donc, plus tard, en 1985, le PQ reconnaît les 11 nations autochtones, donc ce qui est extrêmement progressiste, et leurs droits ancestraux. Et c'est donc le gouvernement du Parti québécois qui était au pouvoir à ce moment-là. La paix des Braves a été signée avec les Cris par le gouvernement Landry. Une entente, dira-t-on, de nation à nation. Cependant, certains, dont je suis, considèrent qu'en raison des prétentions du mouvement souverainiste, on se serait attendu à ce qu'il fasse une place plus généreuse ou plus adéquate au peuple autochtone. En raison surtout des arguments juridiques que le mouvement souverainiste met lui-même de l'avant, donc le droit à l'autodétermination des peuples, et aussi en raison des arguments moraux qu'il met de l'avant, comme l'occupation première du territoire, l'illégitimité de la conquête, voire la colonisation, la menace à la culture et à la langue en raison d'un petit bassin de population, etc. Donc, il apparaît la première importance, donc un éventuel Québec souverain ne reproduise pas les erreurs que le Canada a commises envers le Québec. Pour cette raison, Seymour n'hésite pas à parler d'un malaise concernant l'attitude du camp souverainiste. On observe une politique de deux poids, deux mesures, ou comme disait Alain Bissonnette, de double standard. Donc, deux questions achoppent surtout, la question de la citoyenneté et la question du territoire. D'abord, concernant la question de la citoyenneté et l'identité, la plupart des auteurs s'entendent pour dire que le Québec a opéré une transformation de son identité, passant d'une identité plus, bon, francophone, blanche, catholique, s'est transformée en citoyenneté québécoise axée sur le territoire. Mais c'est difficile de nier que, malgré cette prétention à la citoyenneté plus universelle au niveau québécois, le projet souverainiste reste encore essentiellement concentré sur son noyau ethnique traditionnel. Donc, pour Jacques Beauchemin, il s'agit un peu d'une évidence, la souveraineté étant le projet politique qu'entretiennent les francophones, majoritaires, mais pratiquement seuls de leur côté. Mais est-ce qu'on peut donc avancer que la théorie se bute à la pratique, donc que les rêves d'inclusion se butent à la réalité? Donc, Beauchemin parle d'une très grande difficulté de concevoir le projet politique commun qui correspondrait à la définition nouvelle du sujet politique québécois éclaté. Il est clair que la minorité historique anglophone et les Autochtones, surtout ceux qui ont comme langue, soit maternelle ou langue seconde, qui ont l'anglais comme langue, auraient sûrement un peu de difficulté à se sentir inclus dans un projet souverainiste qui mettrait la langue française de l'avant, et comme ce sera évidemment le cas, donc on sent une tension évidente ici. Donc, ces considérations incitent Seymour à trouver un juste milieu entre l'inclusion et l'affirmation des origines. Donc, il y aurait au Québec une nation civique et inclusive, mais qui n'existerait pas sans un noyau historique de francophones. Donc, en ce sens, Seymour s'oppose à un nationalisme exclusivement civique, caractérisé par un universalisme abstrait qui ne reconnaît en fait aucune culture en théorie, mais qui reconnaît surtout la culture majoritaire en pratique. Donc, il y aurait pour effet donc de reproduire la même erreur que le Canada a commise envers le Québec. Seymour cherche donc à mettre de l'avant une conception de la nation qui insiste sur une identité civique commune qui doit inclure une langue publique commune, une culture publique commune et une histoire publique commune. Beauchemin, lui, parle de culture publique commune et propose de mettre l'accent sur l'histoire, la mémoire, plutôt que sur la langue, ainsi que la tradition de démocratie et de tolérance du Québec. Toutefois, malgré toute la volonté du monde, la possibilité que les Autochtones en viennent à vouloir adopter une telle identité ne fait pas l'unanimité. On sait que les Autochtones, en raison du lien historique qu'ils entretiennent avec la couronne, se sentent davantage Canadiens que Québécois. Une identité qui vient se juxtaposer bien souvent à leur identité nationale, évidemment, donc Inuké, par exemple. Cette question amène Seymour à mettre de l'avant la notion d'auto-représentation du groupe, qui s'avère particulièrement utile advenant le cas où des groupes souhaiteraient s'auto-exclure pour diverses raisons. Seymour va alors proposer d'évaluer le refus de la minorité, la légitimité, pardon, du refus de la minorité, concernant notamment la reconnaissance ou non de cette minorité par la majorité. Donc, dans le cas des Autochtones, Seymour semble ouvrir la porte à la légitimité d'une auto-exclusion de la part des Autochtones. Ils seraient alors citoyens du Québec, mais non membres de la nation québécoise, ne se représentant eux-mêmes pas comme membres de cette nation. Je crois que ce type de concession envers les Autochtones est primordial, donc dans le but d'éviter l'erreur commise par le Canada, donc la philosophie trudeauiste à l'égard du Québec. On rappelle cette erreur, inclure de force une nation dans une méta-nation créée, en fait, de toutes pièces, une supposée nation, philosophie qui, dans la pratique, a mené, en fait, à l'exacerbation du sentiment nationaliste québécois, donc qui a stimulé, en fait, un nationalisme qu'on tentait d'affaiblir. Mais la question du territoire est aussi primordiale. Notez que les pourparlers actuels concernant l'autonomie gouvernementale font montre de peu de profonds désaccords entre les partis. Normalement, la question des protections culturelles, de la langue, ça semble faire consensus. Mais les discussions sur les questions de territoire, juridiction, co-gestion, redevance, on en parlait ce matin, sur les ressources et le pouvoir de légiférer dans certains domaines, achoppent. À ce sujet, Mme Sylvie Vincent souligne que les rivalités des nationalistes concernant la reconnaissance de leur spécificité par le Canada se sont transformées en rivalité concernant le territoire. Donc, c'est une question délicate, la question du territoire, probablement la plus délicate de ce que j'ai appelé le choc des nationalismes. C'est que l'amputation d'un morceau de territoire est la situation à éviter à tout prix, et ce, de tous les côtés. Donc, si le Canada s'est présenté plus que réfractaire au souverainisme québécois, les Québécois sont eux-mêmes pas très chauds à l'idée de voir leur territoire partitionné. Tout comme les Autochtones, évidemment, ne souhaitent pas abandonner la reconnaissance de leurs droits sur les territoires. Donc, sur cette question, les nationalistes autochtones comme Québécois, pour appuyer leurs droits sur le territoire, font intervenir tour à tour des questions philosophiques et juridiques, et parfois même les deux à la fois. Il est difficile dans ce type d'argumentation, donc vous en conviendrez, de maintenir une position objective met de côté le côté émotif. Mais on croit que le débat doit impérativement dépasser cette question concernant l'intégrité territoriale. Donc, Sylvie Vincent avançait dans l'ouvrage dirigé par M. Trudel. Étant donné que Québécois et Autochtones du Québec vont devoir continuer à vivre ensemble et à partager leurs ressources, étant donné qu'ils semblent prêts, avec diverses nuances, il est vrai, à respecter la spécificité de l'autre, la seule issue, semble-t-il, pour en arriver à concilier les intérêts des uns et des autres, est de modifier le sens que l'on donne au territoire et à son intégrité. Si on ne donne pas au territoire une autre signification, si on ne lui permet pas de symboliser autre chose que l'identité jalouse de chacun, il me semble qu'on ne pourra jamais sortir de la confrontation où l'on se trouve en ce moment. Donc, les notions de co-gestion et de co-juridiction dans ce contexte apparaissent comme des avenues prometteuses, tout comme celles de responsabilisation plutôt que de possession du territoire. Et ça nous ramène aussi hier à la présentation d'Alexandre, bien sûr, sur une notion de territoire formel, VS fonctionnel. Et en terminant, si je peux me permettre une petite partie normative par rapport à un futur possible pacte entre les nations. M. Seymour n'aime pas l'idée de pacte entre les nations, il préfère l'idée de partenariat. Donc, on peut parler de partenariat aussi entre les nations. Disons d'abord que le nationaliste québécois doit être prudent par rapport à la direction qu'il prend. Les réponses possibles de sa part face à l'évidence de la pluralité québécoise présentent des défis de taille. La tentation est forte de construire une nation exclusivement, ou de tenter de la construire du moins, une nation exclusivement civique, comme on l'a vu en France. La critique principale de ce nationalisme dit républicain est le fait que sa supposée neutralité, en ne reconnaissant en théorie aucune culture, reconnaît en fait la culture de la majorité. Donc les minorités souffrent alors de non-reconnaissance. Toutefois, un certain discours nationaliste québécois, celui de militants, mais aussi d'universitaires, comme M. Serge Quentin ou encore M. Boc-Côté, semble craindre une dilution de l'identité québécoise. Personnellement, je pense qu'à mi-chemin entre l'inclusion forcée de groupes culturellement distincts et l'exclusion de la définition de la nation de ces groupes en raison de différences culturelles, on trouve une certaine inclusion volontaire, à mi-chemin entre les deux, une inclusion volontaire de ces groupes dans la nation québécoise. Mais pour cela, les souverainistes ont besoin d'un projet rassembleur qui persuaderait les autres groupes, donc, de prendre part à la nation québécoise. Cette volonté a d'ailleurs été énoncée par certains souverainistes québécois, dont Gérard Bouchard, comme étant une raison très valable de réaliser la souveraineté, le projet national pluraliste québécois étant impossible dans le cadre trop rigide et trop conservateur du Canada. Mais favoriser l'inclusion de ces groupes dans la nation québécoise demande une attitude d'ouverture de la part des nationalistes québécois. Les solutions offertes par un auteur comme Seymour pour rendre le mouvement souverainiste conséquent avec lui-même sont d'offrir aux Autochtones des conditions favorables d'adhérer au projet. Il propose donc la reconnaissance des nations autochtones et de leur droit à l'autonomie gouvernementale, la reconnaissance des droits ancestraux, la co-gestion du territoire et finalement l'octroi d'un droit de veto sur les questions les concernant. Donc, advenant ces transformations, les Autochtones n'auraient, et je cite, « aucun motif raisonnable de ne pas vouloir demeurer des citoyens du Québec ». Donc, le type de reconnaissance que souhaitent les Autochtones se trouve dans une conception pluraliste de l'État qui serait parfaitement adaptable à la situation du Québec, je le crois. Toutefois, il s'agirait d'un revirement majeur. Les souverainistes n'ont jamais sérieusement essayé de faire en sorte que les Autochtones se sentent à l'aise dans le projet souverainiste, mis à part quelques déclarations isolées. Pourtant, offrir un espace politique aux Autochtones au sein de cette nouvelle nation québécoise et d'un futur Québec souverain aurait été un incitatif valable, je crois, et qui aurait pu motiver les Autochtones à faire partie d'un éventuel Québec souverain. L'intervention d'un représentant du gouvernement Parizeau à l'époque, en 1995, donc dans le colloque dont nous avons parlé précédemment, donc un représentant du gouvernement Parizeau, qui s'appelait David Clich, qui s'appelle toujours d'ailleurs, au cours du colloque, donc, Clich s'en remet au droit international et à son évolution potentielle pour délimiter le droit à l'autodétermination des Autochtones. Autrement dit, il s'en remet au droit international pour dire, bon, si le droit international reconnaît des droits aux Autochtones, on va les reconnaître nous aussi. Mais sinon, il refuse de se poser finalement à l'avant-garde du droit international de façon à faire évoluer éventuellement même les normes. Donc, par opposition, un auteur comme Seymour propose donc de se mettre à l'avant-garde et d'en proposer davantage que le Canada le fit. L'appui politique des Autochtones en termes de vote n'est pas très important, vous en conviendrez, mais il en va de la cohérence morale du projet et à la cohésion aussi du futur État du Québec, si un jour cette éventualité arrive. Pour Seymour, il en va donc de la stabilité de ce qu'il est convenu d'appeler les États multinationaux et ce que deviendrait aussi le Québec advenant à la souveraineté. Pour Roméo Saganache, que vous connaissez, ancien négociateur pour les CRI, actuel député du NPD, offrir le choix aux nations, et qu'il disait en 1995, offrir le choix aux nations d'adhérer ou non à un projet de l'envergure de celui de la souveraineté du Québec est primordial. Donc, il s'agirait d'une approche audacieuse qui contrasterait avec l'approche qu'on a vue jusqu'à maintenant. Saganache dit, et je cite, « La reconnaissance d'une telle liberté de choix, à mon avis, pourrait avoir comme effet de convaincre les peuples autochtones du Québec de leur intérêt à s'insérer plus volontairement dans le processus de construction d'un nouveau Québec. » À noter, je note personnellement, qu'un tel choix ne leur a jamais été offert par le Canada. Donc, la tolérance entre les peuples et leurs projets nationaux semble être ici de la première importance. Le Québec, nous dit Gérard Bouchard, doit dépasser l'attitude de survivance qu'il a déjà eu et qu'il possède encore dans une très grande mesure. Un changement qui est déjà entamé d'ailleurs et dont le Québec doit prendre conscience dans son attitude face aux minorités. Donc, le Québec peut se poser en précurseur de nouvelles relations entre les peuples plutôt que de prendre pour modèle des États dont les relations entre les peuples sont qualifiées d'échecs. Donc, en terminant, je veux dire, peut-être que c'est ça, une société distincte. Voilà. Merci beaucoup. Vos commentaires sont libres.
Merci Jean-Olivier. Nous allons maintenant avoir les commentaires de Pierre Trudel du Collège du Vieux-Montréal.
Bonjour, je remercie Crédac et Chessemont de m'avoir invité à commenter le texte de Jean-Olivier. Je suis aussi chargé de cours à l'UQAM en sciences politiques. Je donne le cours État canadien les peuples autochtones depuis quelques années. J'ai une formation d'anthropologue, mes étudiants le savent dès le départ. Donc, je suis un gars de terrain, je suis pas un grand théoricien. Vous allez le constater dans mon commentaire que je fais à Jean-Olivier. D'ailleurs, je me revoyais sur le terrain lorsque j'entendais Alexandre hier faire des différences entre le territoire formel et le territoire fonctionnel. Terrain pendant lequel je faisais des entrevues avec des cris dans les années 70, 80, avec des cris de l'abbé Dutton. Âgés qui sont aujourd'hui décédés, M. Coapit, M. Moukache, et qui ne parlaient ni français ni anglais, que cri, qui ne savaient pas qu'ils étaient cri d'ailleurs, mais plutôt Iyouch, d'ailleurs le nationaliste cri qui se transforme, revient avec ce terme-là, Iyouch, plutôt que le terme cri, qui sûrement ne savait pas qu'il vivait au Québec. Et qui passait tous les jours entre le Québec et, à cette époque-là, non pas le Nunavut, mais les territoires du Nord-Ouest, puisque la frontière, vous savez, entre les deux, c'est la marée basse, là, puis il circulait constamment entre le territoire formel du Québec et le territoire formel des territoires du Nord-Ouest, sans même le savoir. Donc, j'ai ramassé des milliers de toponymes sur un territoire... Où sur nos cartes formelles, il n'y avait que Grande Rivière-la-Baleine, Petite Rivière-la-Baleine, Lac Bienville. Donc, lors de ton exposé d'hier, là, je me revoyais sur ce terrain-là, à confronter ces deux réalités-là. Donc, j'ai pas écrit, mais j'en ai parlé à Jean-Olivier hier, qui s'attend un peu à mon commentaire. Je l'ai écrit, mais je n'ose pas lui. C'est des notes. Actuellement, je suis sur le terrain de l'administration d'un département, puis ça ne m'a pas donné le temps de rédiger. Donc, j'ai quelques notes et c'est très simple. J'ai trois petits commentaires, des points de détail, et deux commentaires qui vont aller plutôt sur la question de fond, qui est la question de la rencontre ou de la concurrence entre les nationalistes. Et puis la question à 100 000 piastres, est-ce qu'on peut forcer les Autochtones à faire partie d'un Québec souverain? Alors, deux commentaires sur ces deux questions de fond-là. Donc, je commence par des points de détail. D'ailleurs, qui reprend même le commentaire que François Thibault, je crois, a fait à Alexandre Germain hier, concernant la différence entre un constat puis un plaidoyer. Alors, je remarque aussi dans ton texte, d'ailleurs, tu n'en caches pas, il y a un plaidoyer, mais je me pose la question de savoir s'il manque pas un peu de subtilité ici. Lorsqu'il est question de souci de cohérence, du nationalisme, est-ce que les nationalistes sont cohérents? Vous savez, l'anthropologue qui parle, analyse des discours et ne voit pas trop de cohérence à part souci de cohérence d'un nationaliste ou lorsqu'il est question d'un Québec souverain qui commet des erreurs ou la cohérence de la démarche souverainiste ou la cohésion d'un futur État. Bien, tout ça, évidemment, à mon avis, ça dépend du point de vue... De la perspective qu'on adopte, ça va varier, cette cohérence-là, puis ces erreurs-là et tout ça. Là. Donc, on reconnaît un plaidoyer dans l'analyse de Jean-Olivier ici. Petit point de détail aussi. Ce qui est écrit, ce qui est dit n'est pas exactement la même chose, mais peut-être, de toute façon, ça apparaît à deux endroits dans le texte. Là, c'est lorsque tu relèves que chez les Autochtones, il y a une forte réticence bien connue envers quelconque sentiment d'appartenance canadien ou québécois. Et là-dessus, tu as tout à fait établi la nuance que je voulais rapporter de toute façon. Ceci aussi varie d'une nation à l'autre, d'une région à l'autre. On a vu Phil Fontaine, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, lors d'une élection là, avec le directeur des élections Canada. Surtout qu'on sait que c'est un libéral qui manquait quelques comtés pour que c'était très serré. Donc, il faisait la promotion que les Autochtones allaient voter aux élections fédérales avec le directeur des élections du Canada. Donc, il y avait là, évidemment, Justin Picard s'est toujours défendu en disant « Moi, je vote pas, là ». Mais il y a une variation par rapport à ce sentiment d'appartenance-là au Canada. Et bien sûr, des petites populations, peu de sondages qui ont été faits sur ce sentiment d'appartenance-là. Il faut distinguer, c'est le cœur de mon commentaire aussi, que je fais, tu vas voir plus loin, là, entre le discours des politiciens, des plateformes politiques et une certaine réalité. Bon, Justin Picard, au sommet socio-économique de Maastricht, les télévisions étaient là, tout le monde le regardait, il disait je suis ni Canadien, ni Québécois, mais Innu. Or, on sait que les Mohawks se vendent de pas voter et tout ça. Donc ça, c'est des discours, à mon avis, mais dans la population, on ne le sait pas, il n'y a plus de sondage. J'ai même vu un seul sondage, là, c'est un vieux qui te parle, dans le Eastern Door, qui est le journal des Mohawks, et ils sont bien connus là, pour pas trop avoir, en tout cas au niveau du discours politique, de s'associer à l'identité canadienne et surtout québécoise. Mais les étudiants de l'école secondaire de Kalamaga avaient fait ce sondage-là. On avait publié le sondage et on voyait que, bien sûr, il y avait un sentiment d'appartenance des Mohawks de Kalamaga d'à peu près 15 % pour ce qui est des Québécois. Mais Canadien, c'était... Bon, c'était Mohawk qui était la première identité très forte. Canadiens, malgré tout, il y avait 50-60 % des Mohawks de Kalamaga qui s'identifiaient à la citoyenneté canadienne. Donc, attention au discours des politiciens et la réalité. À mon avis, mais je pense que tu as relevé aussi que tout à l'heure, ils ont davantage tendance à partager l'identité canadienne que québécoise. C'est aussi une réalité. Bon, tu as déjà nuancé ce que je voulais le faire, la question du discours passéiste des nations autochtones, nuance aussi. Tu as déjà relevé ce que je voulais relever, que nos institutions favorisent ça. Les jugements de la Cour suprême, l'obligation d'engager des archéologues lorsqu'ils veulent avancer des revendications territoriales. Donc, ils font aussi comme nous. Je pense que n'importe quel État qui se sent menacé va avoir un discours passéiste pour justifier son existence. Il y a un nationaliste étroit, autochtone, bien sûr, qui est exclusif et qui fait appel au passé, bien sûr. Mais il faut nuancer, je pense. Il y a une grande diversité, là. Et puis, il y a des discours qui font appel à la tradition, mais qui ne sont pas nécessairement passés, à mon avis. Donc, voilà pour mes petits détails. Question de fond, la question de la concurrence. Je vais te citer d'ailleurs, parce que non pas pour te contredire ou te critiquer là-dessus, mais pour en rajouter. Lorsque tu écris que ces nationalistes ne sont toutefois pas toujours opposés, il s'agit d'une double dynamique d'opposition, mais aussi de rapprochement, ou du moins d'interaction où le nationalisme de l'un sert de moteur à l'autre, ou encore lui permet de se questionner et de se redéfinir. Or, à titre d'exemple, la première élection du Parti québécois servit d'inspiration dans la formulation du nationalisme autochtone. Les Autochtones commençaient à saisir la portée du concept de nation, tout comme le rapatriement de la Constitution qui avait comme objectif initial d'aménager une place plus avantageuse au Québec dans la Constitution. Ces interactions qui peuvent certes être perçues comme des oppositions sont également complémentaires, voire mutuellement constituées. Donc, là-dessus, je trouve très pertinent ce commentaire-là et je pense que je vais même en rajouter, vous savez, peut-être en faisant un bête commentaire d'anthropologue. Je fais lire à mes étudiants l'introduction à l'anthropologie politique où je révèle que les circonstances qui font que quand un État, le premier État est apparu dans l'humanité, eh bien, j'ajoute qu'il en fallait un jour pour que ça pousse les autres qui ne veulent pas s'intégrer de force dans cet État-là qui se développe, mais de faire la même chose pour être empêché de ne pas s'intégrer à cet État-là. Donc, c'est l'histoire du monde, ce rapport-là entre les nationalistes. Et ça se passe aussi entre le nationalisme québécois et autochtone. D'ailleurs, je rappelle que le dernier numéro de Recherche amérindienne au Québec est en hommage à Rémi Savard, qui, dans les années 70, bon, on rappelle dans ce dernier numéro-là le rôle de cet anthropologue-là, qui, c'est un structuraliste, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé politiquement. Et qui était là à l'époque où il y a eu l'élection du premier gouvernement souverainiste et qui est intervenu beaucoup dans les médias. et qui, dans ce numéro-là, donc on relève le fait que Rémi Savard, d'ailleurs, on analyse des textes publiés dans les journaux, et un des éléments très importants qu'il relevait, c'est de ne pas reproduire la tutelle fédérale à l'égard des Autochtones dans ce projet de Québec souverain. Moi, j'ai écrit un texte qui rappelle aussi la première rencontre du Parti québécois avec 125 chiffres. Parce que après l'élection du Parti québécois, on a senti le besoin de faire une réunion, première rencontre entre les nations autochtones et le Québec, selon la perspective du gouvernement du Parti québécois à cette époque-là. Et donc, pendant trois jours, au Château Frontenac, 125 chefs se sont réunis avec le premier gouvernement souverainiste. Lorsqu'on lit ça, on voit les souverainistes, les premiers souverainistes étaient très mal préparés, très ignorants de la situation, de la question autochtone. Un dénommé Simard écrivait un livre sur Camille Lorrain montrait comment ce premier gouvernement-là avait les idées claires complètement concernant la place des anglophones dans un Québec souverain et comment ils se situaient, leur statut. Par contre, concernant les Autochtones, cette rencontre-là a montré vraiment une méconnaissance et une ignorance. D'ailleurs, Rémi Savard a critiqué cette rencontre-là. René Lévesque le disait d'ailleurs lors de cette conférence-là, on ne se connaît pas, il faut se connaître. Jacques-Yvan Morin tenait le discours de la territorialité, disant que les Autochtones avaient beaucoup de droits dans leur réserve, mais qu'en dehors de leur réserve, ils n'avaient pas de droits. Et il parlait à des gens qui parfois n'avaient pas de réserve, souvent avaient des activités hors réserve. Et il y a eu une vive réaction concernant ce discours-là de la modernité de Jacques-Yvan Morin qui disait nous sommes un nationaliste territorial, vos droits se confinent, sont aux réserves. Et devant la réaction des Mohawks, de Kanasataki, qui ne vivaient pas dans une réserve, ou des Micmacs de l'Estigouche qui pêchaient dans des rivières hors des réserves, puis il y avait des litiges importants, Jacques-Yvan Morin disait je comprends pas votre hostilité, il y a des choses que je comprends mal. Alors, c'est ce qu'on retrouve là dans le compte-rendu de. Donc, grande ignorance. Et puis aussi, de la part des Autochtones, concurrence, puisque lorsqu'on regarde un peu le discours des Autochtones, on n'utilise pas le terme souveraineté, ou presque pas. Rémi Savard, à l'époque, l'utilisait. Et certains l'utilisent, et vont l'utiliser stratégiquement en disant « Pourquoi pas avoir la souveraineté association, nous aussi? » Donc, on questionnait le premier gouvernement souverainiste. Nous aussi, on la veut, la souveraineté association. Et là, l'évêque, un peu mal à l'aise, disait, bon, appelez ça comme vous voulez, appelez ça souveraineté, appelez ça autonomie, appelez ça comme vous voulez. Donc, il s'en sortait un peu de cette façon-là. Vous aurez un peu ce qu'on souhaite avoir avec le Canada. Zéro, oui, j'y vais. Il ne me reste pas... je vais terminer ce point-là. Donc, il y a une importante incompréhension. Jeu politique, les Autochtones font manifestement en renvoyant la balle au Parti québécois avec ce concept-là de souveraineté association. Quant à la dernière question sur peut-on les forcer à appartenir à Québec souverain, là-dessus, c'est une question centrale. Je vais être très bref, j'y reviendrai peut-être dans la période de questions, puisque j'ai zéro minute. Là. Je pense qu'il faut faire la distinction entre discours et plateforme politique. D'ailleurs, et là-dessus, je crois que les souverainistes ont toujours eu un plan B. J'ai même découvert que René Lévesque, lorsqu'il se faisait poser des questions sur la souveraineté par des Autochtones en 1978, répondait en disant « Oui, mais ce qu'on veut, nous, c'est la souveraineté association. » Puis là, il insistait davantage sur l'association suggérant aux Autochtones, calmez-vous, il y aura association avec le Canada, il les rassurait. Et, bon, bien sûr, la position officielle du Parti québécois, c'était de dire, dans un Québec souverain, les Autochtones auront le choix de déterminer leur statut dans une nouvelle constitution, mais n'ont pas le choix d'appartenir au Québec souverain. Hein? C'est un rapatriement là, qu'on fait. C'est la position officielle. Qui a changé? J'ai vu Jacques-Hubert Morin dans une réunion du barreau canadien à un moment donné, des années après la première élection, dire sur la question de la vie ou du pourvoi de la Cour suprême, sur la sécession du Québec, dire « Ah, ben la modernité aujourd'hui, la mondialisation fait que les États vont partager des compétences, les États, par exemple, sur l'environnement, et pourquoi pas sur la question des Autochtones. » Donc là, il passait de la territorialité formelle. Et puis pour la question autochtone, ben là, il sautait dans l'autre territorialité fonctionnelle. On disait qu'on pourrait partager ce domaine-là des Autochtones. Bon, maintenir le statu quo s'il n'y a pas d'entente. Ici, on ne peut pas les forcer. Donc, maintenir le statu quo. Donc, j'ai appris en relisant ça que l'évêque avait lui-même ce plan B-là. Et qui revient, évidemment, lorsqu'on on questionne grandement les souverainistes, là, qu'allez-vous faire, puis qu'on les met devant leurs contradictions, ils sortent, je pense, ce plan B-là, qui devient de plus en plus officiel. D'ailleurs, Gilles Duceppe, dans une discussion, me confirmait que, dans sa tête aussi, là, je lui disais, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait des médiateurs internationaux s'il y avait un désaccord? Alors, il dit, oui, mais on va choisir les médiateurs internationaux, par exemple. Hein? Donc, discours et pratique, finalement, l'anthropologue qui parle dit qu'il faut toujours un peu aller voir dans le non-dit, hein, et pas se limiter aux plateformes politiques et aux discours.